Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 13h et tout de suite les titres de l'actualité avec Julien.
Mouvement social devant le Parlement wallon ce matin, notre envoyé spécial Thomas nous donnera le pouls de la mobilisation. La gare de Mons a enfin ouvert et elle partage plus d'un point commun avec notre belle gare des Guillemins. Le marché de Noël bat toujours leur plein, focus sur le marché solidaire de la citadelle. Et enfin, à l'occasion de la journée internationale des migrants, nous ferons le point sur la condition de ces déracinés en Belgique. Le budget wallon doit être voté aujourd'hui à Namur. Le gouvernement MR engagé prévoit de nombreuses coupes budgétaires. Les syndicats et le service public manifestent depuis ce matin à Namur. La grève, notamment du réseau tech, a causé plusieurs perturbations. On retrouve notre envoyé spécial Thomas devant le Parlement wallon. Thomas, tu as suivi la manifestation depuis ce matin. Quelle est l'ambiance sur place ?
Alors les trois grandes forces syndicales sont présentes devant le Parlement wallon. Le cortège s'était lancé depuis la gare de Namur vers 11h. Et à 11h30, les manifestants sont arrivés devant le Parlement. Les pompiers ont alors arrosé la façade avec de la mousse. On a eu aussi quelques jets d'eau. Aucun incident n'est à déplorer. Et actuellement, les manifestants sont en train de se dissiper tout doucement. Il en reste encore pas mal, mais on sent qu'on arrive plus ou moins vers la fin de la manifestation.
Merci Thomas. La gare de Mons a accueilli ses premiers voyageurs ce matin, après un très long chantier. Elle accueillera ses 57 000 voyageurs dans une gare passerelle qui n'est pas sans faire penser à notre gare des Guillemins. Et ce n'est pas un hasard, Quentin.
Difficile de se méprendre, on distingue plusieurs similitudes entre la gare des Guillemins et celle de Mons. Ce n'est pas étonnant, puisque derrière ces deux gares, un homme est à la baguette. Santiago Calatrava. Fabienne Courtejoie, vice-doyenne à l'enseignement de la faculté de l'architecture de l'Université de Liège, nous en dit plus.
Toujours un peu cette question aussi de squelette, comme ça, qui apparaît dans son architecture. Et c'est aussi une architecture-sculpture. Donc il y a quand même toujours une volonté d'être très présent dans le paysage, quel qu'il soit. Ce n'est pas une architecture discrète, effacée. Et donc, elle est toujours assez singulière. Ce n'est pas une architecture très intégrée, quoi.
Outre les distinctions architecturales, Santiago Calatrava se démarque d'une autre manière.
C'est quand même une architecture qui est d'abord une architecture chère, comme on a pu l'entendre par rapport au prix qu'elle a coûté. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être reproduit et répété de façon universelle.
Au total, la gare de Mons aura coûté 480 millions et sera inaugurée officiellement le 31 janvier 2025.
Vous l'avez peut-être vu, le Washington Post a recommandé dans un article de visiter le marché de Noël de Liège. Mais à côté du grand village, des initiatives alternatives et solidaires ont aussi lieu tout au long du mois de décembre. Emilio s'est rendu hier dans les hauteurs liégeoises à l'occasion du marché solidaire de la citadelle.
Tout l'espace est utilisé, pas une zone d'ombre. Le hall d'entrée de la citadelle accueille tous les visiteurs curieux de l'artisanat local. Barbara Jekel, à l'initiative de cet événement, nous emmène au cœur de ce projet.
Alors, ce qui est unique dans ce marché de Noël à l'hôpital, patients, visiteurs, membres de la citadelle se réunissent ici justement pour manger un bout, boire un petit verre après 17h et regarder ce que des agents font après leur journée de travail, des bijoux, des bougies, des porte-clés. Enfin, notre marché de Noël est assez exceptionnel dans le sens où tout le monde est au même niveau, la maladie est oubliée à ce moment-là. On a envie de continuer à fêter Noël, peu importe ce qui se passe dans la vie.
Un programme rondement mené qui rend ce marché de Noël unique.
On a 23 exposants, donc 23 personnes issues de la citadelle. Donc ce sont des agents qui viennent exposer leurs créations. Un pianoman qui a été prêté directement de Bruxelles, en sachant que nous avons des élèves du conservatoire qui viennent toutes les heures se relayer pour donner justement des séances de musique. Nous avons aussi l'opportunité de mettre en valeur notre couteau fourchette, qui est le restaurant de l'hôpital de la citadelle.
Notons que 10% de chaque vente se fera au profit de la fondation de la citadelle et ainsi que Cita des Ailes. Cette association a pour but d'humaniser les soins en pédiatrie en faveur de tous les enfants hospitalisés. Ils participent activement au soutien et à l'écoute des familles, mais surtout à l'amélioration des soins.
Enfin, nous l'apprenons ce midi, le champion belge Rick Van Looy est décédé dans la nuit, à l'âge de 90 ans. Van Looy a marqué l'histoire du sport belge, il fait partie du club très sélect, avoir remporté les 5 monuments, dont le Tour de Flandre et le Liège-Bastogne-Liège. C'est aujourd'hui la journée internationale des migrants, nous ouvrons pour l'occasion une page spéciale avec Quentin.
Alors que la Belgique a suspendu les demandes d'asile de réfugiés syriens, nous nous penchons sur le quotidien et l'avenir de celles et ceux qui ont dû quitter leur pays. Dans ce combat, de nombreux acteurs se mobilisent pour faire entendre la voix des sans-papiers. Antoine est allé à la rencontre d'Ingrid Falk, du collectif Voix des sans-papiers de Liège. Elle nous explique l'objectif de son association.
Donc, on a une charte avec des revendications, dont la principale est donc la régularisation des personnes sans papier, mais aussi d'autres revendications liées à la politique migratoire et aux personnes sans papier, notamment la dépénalisation du séjour irrégulier, l'ouverture de voies d'accès légales au territoire. Et ces revendications nous servent de base pour les contacts politiques qu'on entretient. Donc on essaye de convaincre les partis politiques, et particulièrement les partis progressistes, de la nécessité de mettre au premier plan et de mettre en œuvre ces revendications dans la politique fédérale belge en matière de migration.
L'immigration est en effet souvent un sujet polémique qui divise la classe politique. Alors Nathan, quelle est la position des partis du potentiel futur gouvernement Arizona ?
Eh bien Quentin, la tendance est plutôt à un durcissement de la politique migratoire du côté francophone. Le mouvement réformateur clame une politique d'immigration humaine mais ferme. Les libéraux insistent pour une lutte renforcée contre l'immigration illégale. Cela passe par exemple par un contrôle plus strict aux frontières de l'Union européenne. Pour les engager, la solution se trouve aussi du côté de l'Union européenne. Les centristes plaident pour une politique migratoire européenne harmonisée. Il propose la mise en place de couloirs humanitaires afin d'offrir une possibilité de migration plus sûre et mieux contrôlée.
Mais alors ça c'est pour la Wallonie, mais qu'en pensent les partis du nord du pays ?
Bien, chez les néerlandophones, vous vous en doutez, le ton est plus catégorique pour la NVA. La Belgique doit reprendre le contrôle de ses frontières. Le parti qui dirige actuellement les négociations gouvernementales souhaite que les demandes d'asile soient introduites en dehors de l'Union européenne. Les personnes qui entreraient illégalement en Europe perdraient toute chance de rester légalement sur le territoire. Le parti de Bart De Wever va jusqu'à défendre le placement des familles en situation illégale dans des centres de détention spécialement aménagés. Cela dans le but de garantir leur expulsion. Et alors les deux derniers partis qui font partie des négociations, le CD&V et Vooruit, préconisent eux aussi une politique de retour plus stricte. Bref, même si les propositions de mesures diffèrent en fonction des partis, l'Arizona sera le gouvernement du durcissement de la politique migratoire.
Merci Nathan. Certains migrants font aussi face au défi de devoir s'adapter à une nouvelle vie tout en reprenant des études. Clément Bailly s'est rendu place du 20 août pour en apprendre plus sur la situation de ses étudiants.
L'Université de Liège compte sur ses bancs plus de 27 000 étudiants, dont 24% sont issus de l'étranger. Parmi eux, certains ont dû fuir leur pays en guerre et sont désormais demandeurs d'asile. Pour les aider dans leur adaptation parfois difficile, l'ULiège a mis en place plusieurs dispositifs. Sandrine Dachy travaille au service des inscriptions et admissions de l'université. Elle s'occupe principalement des étudiants qui viennent de l'étranger.
Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études, ils ont plusieurs services qui leur sont offerts. S'ils ne connaissent pas la langue française, l'Université de Liège leur propose des cours de français. Pour ceux qui ont le statut réfugié ou demandeur d'asile, ils peuvent également suivre des cours isolés ou en auditeur libre.
Des aides psychologiques sont également proposées à tous les étudiants de l'ULiège. Les étudiants réfugiés peuvent donc bien évidemment eux aussi en profiter. Sur le plan financier par contre, c'est plus compliqué. Il existe plusieurs critères pour obtenir une bourse.
Pour la bourse, tous les étudiants ne bénéficient pas d'une bourse. Ça dépend de... Leur statut et du moment auquel ils l'ont obtenu. Parce que pour obtenir une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut avoir obtenu le statut de réfugié, apatride ou protection subsidiaire depuis au moins un an.
L'objectif de l'ULiège est donc clair, donner à ces étudiants réfugiés les moyens de reprendre leurs études et avec elles, leur vie en main.
Merci Quentin pour cette page spéciale. Dans le reste de l'actualité internationale, Volodymyr Zelensky est en déplacement à Bruxelles aujourd'hui. Le président ukrainien doit rencontrer des dirigeants européens lors d'un mini-sommet de l'OTAN pour évoquer les possibilités d'une paix durable en Europe. Une paix qu'il faudra envisager avec la nouvelle administration Trump. Alors qu'un attentat à la trottinette piégée a tué un général russe ce matin, une action revendiquée par les services de sécurité ukrainiens. conclure ce journal, une revue de presse un peu particulière. Nous avons scruté dans les journaux les enquêtes les plus marquantes de ces dernières semaines. Doris, tu t'intéresses aujourd'hui à une enquête qui touche les universités.
Oui, c'est un immense gâchis, c'est comme ça que qualifie Médor sur la gestion du sexisme au sein de l'UC Louvain. Cette enquête, signée Catherine Joie et Quentin Noir-Fallis, s'appuie sur les témoignages de deux biologistes victimes de harcèlement sexiste. Ces spécialistes des papillons et des guêpes arrivent dans l'institution fin des années 2000. Rapidement, elles subissent agressions verbales, dénigrements, mains aux fesses, des discriminations et même des représailles institutionnelles. Il faut savoir que les femmes ne représentent que 18% des professeurs ordinaires à l'UC Louvain, ce qui est quand même très peu. En 2021, l'institution désigne une commission d'enquête interne où Jean-Pascal Van Hipperzeel, climatologue et figure emblématique de l'UC Louvain, alerte les médias. Mais l'université, selon Médor, minimise les faits. Aucune réelle sanction n'est prise contre les agresseurs. Une des victimes est même contrainte de quitter l'université. Elle intente alors un recours en justice pour licenciement abusif. L'autre victime est en arrêt maladie depuis un an et demi.
Est-ce que l'université a finalement pris des mesures alors ?
Oui et non. En 2022, elle commande un rapport pour évaluer les violences sexistes au sein de cette institution catholique. Le rapport Tolkens, c'est son nom, formule 144 recommandations, mais ces mesures sont très peu appliquées. Et l'UC Louvain, toujours selon Médor, semble prioriser sa réputation plutôt que de traiter le problème en profondeur. C'est un vrai gâchis et académique, écrit le magazine d'investigation, car il s'agit de chercheuses talentueuses sur lesquelles beaucoup de fonds publics ont été misés pendant des années.
Merci Doris. Toi Abdeslam, tu nous parles de l'eau du robinet.
Imaginez boire de l'eau du robinet, mais avec des atomes radioactifs. Selon une enquête publiée par Mediapart ce 9 décembre 2024, près de 10 millions de Français consomment de l'eau contenant du tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène, la source, les rejets liquides des centrales nucléaires françaises situées le long de grands fleuves comme la Seine, la Loire ou encore le Rhône. À Châtellerault ou Angers, le niveau relevé atteint des pics de 65 becquerels par litre. On est certes loin du seuil de 100 fixé par les autorités pour déclencher une enquête, mais des études américaines et canadiennes révèlent que même à faible dose, le tritium pourrait endommager l'ADN ou poser des risques pour les plus vulnérables, femmes enceintes et enfants en bas âge. Mais selon l'autorité de sûreté nucléaire, cette radioactivité dans l'eau est inéluctable. Le tritium est un sous-produit involontaire des réacteurs qui se propage dans nos cours d'eau et plus tard dans notre eau potable.
Et qu'en pensent les scientifiques ?
Les scientifiques sont divisés et le débat s'intensifie. La France prévoit la construction de nouveaux réacteurs EPR2 plus puissants qui pourraient rejeter encore plus de tritium. Au fond, cette enquête mériterait que l'on pose la question en Belgique, où il existe encore 5 centrales nucléaires, et si l'eau de notre robinet n'était pas aussi saine que l'on croit.
Merci Abdes pour cette page, cette revue de presse. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous pour la première de nos émissions spéciales. Chaque jour jusqu'à vendredi, les journalistes de Master 1 de l'ULIEJ nous présentent leurs investigations. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Éléonore ?
Dans cette émission spéciale, nous allons parler de l'univers spectaculaire mais controversé du MMA, ce sport de combat en plein essor. Entre dopage, produits interdits et absence de contrôle en Belgique, nous verrons pourquoi ce fléau persiste toujours chez nous et quels sont les dangers pour les combattants et leurs adversaires. Restez avec nous sur 48FM, ça commence maintenant.
Merci Éléonore, merci à tous et à toutes. À demain même heure pour le journal parlé sur 48FM. Impact.
Et puis il y a des mecs, ils font attention à rien, et ils se dopent et ils trichent.
Ce que vous venez d'entendre, c'est Movzar, le dernier champion d'Europe amateur belge de MMA. Et pour lui, le dopage, c'est un fléau à éradiquer. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission spéciale. Je suis accompagnée de mon co-présentateur Thomas.
Bonjour.
Thomas, nous recevons aujourd'hui deux étudiants en première année de master en journalisme qui viennent nous parler de leur enquête.
Tout à fait, Léonore. Pendant plusieurs semaines, Abdeslam et Tom ont enquêté sur les problèmes de dopage dans le MMA. Un sport qui ne manque pas de soulever plusieurs questions, mais la plus grande est la suivante. comment ces personnes peuvent-elles encaisser autant de violence? Nous avons peut-être une piste de réponse quant aux moyens que certains utiliseraient pour le supporter. Messieurs, après autant de temps à enquêter sur le sujet, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le MMA?
Le MMA, ou les arts martiaux mixtes, c'est un sport de combat en pleine ascension. Impressionnant de violence et encore plus dangereux à cause du dopage, il mélange différentes disciplines comme le judo, le jiu-jitsu brésilien ou encore le kickboxing. Les combattants se retrouvent dans une cage octogonale où il existe plusieurs options pour en sortir. La première est le KO, où l'adversaire ne se lève plus. On compte aussi le KO technique, où l'arbitre estime que le combattant ne peut plus se défendre. La soumission, c'est quand l'adversaire abandonne. Et enfin, la décision par les juges.
Et est-ce que ce sport est reconnu en Belgique?
La législation de la pratique est toujours en négociation. Son manque d'encadrement engendre un problème, celui du dopage. En 2023, le MMA était le sport le plus touché par ce fléau en France. 11,01% des tests antidopage sont revenus positifs. Pourtant, ce poison est un danger tant pour le combattant que pour son adversaire.
Pour décortiquer tout cela, nous recevrons un peu plus tard la directrice de l'Organisation nationale antidopage, le Dr Anne Dalloz. Cette dernière nous parlera de l'objectif de son organisation ainsi que du problème du dopage dans le milieu sportif. Elle nous parlera également des dégâts que cela peut engendrer et enfin du rôle qu'elle joue au sein de la pratique sportive du MMA.
Tom, tu es l'un des étudiants qui a participé à cette enquête. Peux-tu nous rappeler les faits?
Donc le MMA fait face à un gros problème de dopage. En Belgique, des combattants se dopent. L'ONAD, ou l'Organisation Nationale Antidopage, ne fait pas de prévention à ce sujet et personne en MMA n'en demande. C'est un problème de taille et une vraie porte ouverte pour les dopés. Pour comprendre les dangers concrets du dopage, on s'est rendu avec Abdeslam à La Cage, une salle de MMA emblématique à Namur. Là-bas, Movzar Ibrahimov, Idriss Altidor et Magomed Mounaïev, dit Maga, nous ont accueillis. Les deux premiers sont des combattants et le troisième est leur coach. Une chose est sûre, c'est que Mozart déteste le dopage.
C'est le truc que j'ai hais le plus, je déteste. Parce que tout ce que je suis en train de poursuivre, tous les matins je me réveille, je dors à l'heure, je mange ce qu'il faut, je fais attention à tout pour pas avoir de problèmes, pour pas avoir de blessures, pour pouvoir récupérer à temps. Je fais tout en œuvre, je mets tout ce qu'il faut en place. Et puis il y a des mecs, ils font attention à rien et ils se dopent et ils trichent. Tu vois, c'est comme tu joues à un jeu, le mec il triche, il te tue. Il n'y a rien de plus frustrant. Donc je déteste ces gens-là. Je les hais du fin fond de mon cœur. J'espère qu'ils vont tous attraper. Ils prennent des bannes à vie. Je les hais de tout mon être.
On va maintenant s'intéresser aux risques. Et pour nous parler de ceci, nous recevons le docteur Anne Dalloz, directrice de l'ONAD. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour docteur. Pourriez-vous nous parler, s'il vous plaît, des objectifs de votre organisation?
Alors, l'Organisation nationale antidopage a pour but de réaliser des contrôles antidopage, hein, comme son nom l'indique, sur les sportifs. Alors, le sujet est le MMA. Pour nous, malheureusement, le MMA est considéré comme sport amateur. Et donc, vu les budgets qui nous sont alloués et les obligations qui sont données par l'Agence mondiale antidopage dont on dépend, une grosse partie, c'est-à-dire 95% des contrôles sont diligentés vers les sportifs d'élite, donc de haut niveau, et très peu donc vers le sport amateur, ce qui est un réel problème.
Oui, j'imagine que le contrôle du dopage en Belgique, ça ne doit pas être de tout repos. Comment est-ce que l'ONAD agit-elle concrètement?
En fait, l'ONAD donc planifie des contrôles, fait réaliser ces contrôles. On a du personnel de terrain qui va donc réaliser ces contrôles sur base des planifications que l'on fait chez nous. Et puis, les échantillons sont envoyés au laboratoire de Gand. Et si les contrôles sont positifs, nous n'avons pas de compétences disciplinaires. Il y a un tribunal spécialement dédié à cela qui juge de manière disciplinaire donc ces cas positifs.
D'accord. Et donc oui, comme on en parlait, le dopage, c'est une pratique qui est bien présente dans le milieu du MMA. Vous expliquiez lors de l'enquête que le fait qu'il s'agissait d'une pratique amateur empêchait de dédier un maximum de vos ressources à cela. Vous mentionniez un manque de moyens, mais également des difficultés à trouver où se déroulaient les combats. Pourtant, des contrôles avaient été recensés jusque 2016. Pourquoi cet arrêt? C'est à cause de cela?
Parce qu'en fait, jusqu'en 2016, nous n'avions pas autant d'obligations et autant d'analyses qui étaient demandées par l'Agence mondiale antidopage. Donc, celle-ci nous demande de plus en plus d'analyses. Donc, qui dit plus d'analyses dit un coût qui monte. Et donc, forcément, l'argent qui était alloué à des contrôles en milieu amateur et dévier maintenant vers le sport de haut niveau, de façon à pouvoir rester dans les clous par rapport aux exigences de l'Agence mondiale antidopage. Et donc, conclusion, ben, le nombre de contrôles au niveau amateur ben, dégringole de ce fait.
Et est-ce que vous pourriez nous mentionner certains des problèmes que pourrait causer le dopage dans le milieu sportif ? Évidemment, le MMA n'est plus à l'ordre du jour pour l'instant, mais pour ce qui est du reste, vous intervenez encore. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qu'est-ce qui pourrait engager le dopage ?
Alors, en fait, le dopage, le problème, c'est que c'est prendre des substances qui ont été testées sur un corps malade. Donc, c'est dévier des médicaments qui sont là pour soigner sur un corps sain. Et donc, globalement, ça peut engendrer plein de problèmes, aussi bien de la dépendance que des problèmes au point de vue cardiaque, au point de vue hépatique, de la dépression au niveau cérébral, alors même jusqu'au suicide, des gros dégâts physiques aussi, puisque quand on masque la douleur, on tire la machine beaucoup plus loin que ce qu'elle est prévue, puisqu'on masque tous les systèmes d'alerte qui font dire aux sportifs « attention, tu ferais bien de t'arrêter parce que tu as mal ». Donc c'est tous ces dangers-là, quoi, en fait. Et c'est la prise aussi de stimulants qui masque la fatigue. Donc c'est chaque fois pousser cette machine qu'est l'être humain dans ses retranchements, avec les risques à moyen et court et voire même long terme, en fait.
D'accord, Madame Docteur Dalloz, une dernière question. Est-ce que cette situation quant au MMA va changer dans le futur proche, selon vous ?
Alors, je ne suis pas Madame Irma, ce que je pense, c'est qu'il faudrait, et ce qu'il faut signaler, c'est que s'il n'y a pas de contrôle, il y a au moins de la prévention qui est disponible. Donc, tout ça est mis en place chez nous, parce que non seulement nous faisons des contrôles, mais nous faisons aussi énormément de prévention. Donc, si le milieu du MMA veut de la prévention pour sensibiliser ses athlètes à la problématique du dopage et les risques, par exemple, avec les compléments alimentaires, toutes ces séances de prévention sont disponibles gratuitement, je le précise bien. Il suffit simplement de nous contacter et tous les renseignements sont disponibles sur notre site web dopage.be.
Merci beaucoup, docteur Dalloz, pour votre temps.
Avec plaisir.
Nous parlions de produits dopants, mais tous ces produits ne sont pas logés à la même enseigne. Il existe des produits dopants de plusieurs types, Tom ?
Oui, il existe beaucoup de dopants différents. Les stéroïdes anabolisants sont des dérivés de la testostérone. Ceux-ci stimulent les muscles et réduisent le temps de récupération. Il existe aussi les diurétiques. Ceux-ci masquent les stéroïdes et faussent donc les contrôles antidopage. Une injection d'hormones naturelles telles que l'EPE améliore l'endurance et accélère la récupération. Sans compter les injections, par perfusion sanguine, elles sont interdites et permettent de se réhydrater après le cutting. Par cutting, j'entends la perte de poids rapide avant la pesée du combat. Enfin, les stimulants comme la cocaïne, l'ecstasy ou encore l'amphétamine, ils augmentent les performances physiques et intellectuelles tout en réduisant la sensation de fatigue.
Ces différents produits doivent avoir plusieurs effets secondaires.
Oui, la prise de substances dopantes peut avoir divers impacts. Les utilisateurs peuvent avoir plein d'effets secondaires. Ça peut aller de simples chutes de tension à des dangers plus importants comme des AVC ou des crises cardiaques. Sans compter que si le combat est annulé pour cause de dopage, l'adversaire s'est entraîné pour rien pendant plusieurs mois. Il ressent alors un immense sentiment d'injustice et ne touchera pas au rond. En plus, sa vie peut également être mise en danger si le combat a lieu. Le combattant dopé peut frapper plus fort et récupérer plus vite. Il y a donc des risques de séquelles à vie pour celui qui se trouve en face de lui.
Et les combattants eux-mêmes se rendent compte des dangers que provoque le dopage. Idriss Altidor nous le confirme.
Toi, au moment où tu as fait deux rounds, tu es cuit, le mec il est encore bon. En fait, il récupère tout alors que toi tu récupères pas. Du coup, lui il est performant, toi tu le seras un peu moins. Et le MMA, en fait, si tu t'es entraîné autant que le mec et que le mec il a ça comme avantage, c'est énorme, tu vois. Là, visuellement, on dirait pas, dans le combat, on dirait pas, mais tu fais un round, deux rounds, le troisième il est pas pareil. Comme le dopage, hein, au début vous commencez, le mec sa jauge de cardio elle est élevée à 100%. Non, lui, il est à 200%, toi, t'es à 100%, et toi, quand t'es à 50, lui, il est à 100, tu vois.
Nous nous sommes concentrés sur la situation du dopage dans le MMA belge, mais ce phénomène ne s'arrête pas à nos frontières. Movsar Ibrahimov, professionnel en MMA, s'exprime sur la Pologne et la Russie.
Il y a beaucoup à l'est du doping. Eux, ils se dopent, et c'est normal, ils se battent entre dopés, parce que de toute façon, personne ne s'entraîne correctement. Alors, s'ils ne se dopent pas, ils sont fatigués après un round.
C'est en Pologne.
Ouais, en Pologne, c'est ça. Tu vois, en Pologne, même en Russie, etc., ils sont tous chargés.
On écoute maintenant Maga, un des coachs de la cage à Namur, qui s'exprime sur la situation en Thaïlande.
J'ai un gars qui s'entraîne dans un autre club, mais j'ai une très bonne relation avec lui. Ça arrive souvent qu'il m'appelle, etc. Et il n'y a pas longtemps, il est parti faire un camp en Thaïlande. Et il m'a appelé, parce qu'en fait, c'est un gars qui est aussi pareil contre le doping, etc. Et c'est un professionnel. Et il m'appelle, il me dit, je suis choqué. Il me dit, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, en fait, ici, tout le monde me propose ci, me propose ça. Ils sont choqués même que je prenne rien.
Abdeslam, tu as coécrit cette enquête avec Tom et il est difficile de ne pas faire de parallèle avec nos chers voisins, les Français. Pourrais-tu nous parler de la situation là-bas ?
En France, le MMA bénéficie d'un meilleur encadrement. La FLD y réalise des contrôles réguliers, mais les chiffres restent préoccupants. En 2023, 11,01% des tests se sont révélés positifs. J'ai un exemple qui pourrait relier nos deux pays, celui d'un combattant amateur flamand contrôlé positif lors d'un tournoi en France, alors qu'il n'a jamais été testé en Belgique. Résultat, une suspension de 4 ans qui est passée inaperçue chez nous et ailleurs. Cela illustre bien que les tests sont toujours nécessaires.
Merci Abdeslam, je laisse maintenant la parole à Éléonore pour les coulisses de votre enquête.
Oui, comme on vient de le dire, Tom, je me tourne à présent vers toi pour en savoir un peu plus sur les dessous de votre enquête. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous avez procédé ?
Donc on est parti du constat que le dopage était très présent au MMA. Après ça, on s'est rendu à la cage pour en parler avec des combattants. On a été super bien accueillis. Le sérieux était de la partie. Nos entretiens avec Movzar, Idriss et leur coach Maga nous ont donné plein de pistes de recherche. On a ensuite contacté l'ONAD pour recevoir les chiffres précis. C'est là qu'on a découvert le manque de contrôle dans le sport. Après ça, on a fait beaucoup de recherches pour approfondir nos propos.
Et alors, on se doute qu'une enquête ne se passe pas toujours sans accroc. Est-ce que vous avez fait face à des difficultés ?
Évidemment, sinon ça aurait été trop beau. Le premier ennui est qu'on n'a pas pu contacter de personnes dopées. Ça aurait vraiment pu être une plus-value pour l'enquête. On a aussi cherché des images de personnes qui se dopent. On en connaissait l'existence, mais on n'a pas su mettre la main dessus. Le dernier problème était lui très récent. Notre invité en plateau nous a fait faux bond au dernier moment. Jusque hier soir à 23h, on devait accueillir Movzar Ibrahimov de la cage. Mais il nous a dit qu'il avait une trop grosse journée et qu'il ne viendrait pas. On a donc dû trouver un intervenant en urgence. Heureusement, l'ONAD a bien voulu répondre à nos questions.
Eh bien, que des péripéties. Je m'adresse maintenant à tous les deux cette fois. Avec votre regard de jeune journaliste, qu'est-ce que vous retirez de cette investigation ?
Pas mal de choses. Je connaissais le MMA de loin avant cette enquête. J'ai dû apprendre beaucoup de choses sur le sport. J'ai aussi appris à travailler en binôme pour la rédaction d'un article. Ensuite, j'en retire aussi une certaine rigueur pour pouvoir avancer dans mon travail.
Ce qui m'a le plus frappé dans cette enquête, c'est le silence assourdissant autour du dopage en MMA. Que ce soit chez les amateurs ou les professionnels, beaucoup préfèrent fermer les yeux par peur ou par simple indifférence. Ce qui m'a particulièrement révolté, c'est l'histoire de jeunes comme Idriss qui se battent honnêtement pour réussir, mais se retrouvent face à des adversaires dopés qui trichent pour gravir les échelons plus rapidement. Ou encore celle de Movzar, combattant professionnel qui est un travailleur acharné, ayant une vision éthique et droite du MMA.
Et toi, le dopage, tu en penses quoi ?
Le dopage fausse la compétition et met des vies en danger. Celle des adversaires qui affrontent des combattants sous substance, mais aussi celle des dopés eux-mêmes. On découvre que même des légendes du MMA ont été contrôlées positives, comme John Jones, Anderson Silva ou encore Alistair Overeem. Notre enquête permet de comprendre que le dopage est présent à tous les niveaux du MMA, du plus petit combattant amateur jusqu'au plus grand, aux plus grandes stars de la scène professionnelle. Il est donc important d'ouvrir le débat et de mettre en lumière ce problème trop souvent ignoré.
Merci à vous Tom et Abdes qui avez mené cette enquête, ainsi qu'à toi Thomas pour cette coprésentation.
Un plaisir.
Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve ce soir à 17h pour une nouvelle émission spéciale, toujours centrée sur la drogue, mais cette fois avec le snooze, une forme de tabac en poudre interdite à la consommation depuis 2023. Bonne journée à tous sur 48FM. Impact.